Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier. Merci,
bonjour. Dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, on a la chance d'accueillir aujourd'hui Annie Beaumoni qui est avec nous au bout du fil. Alors Annie Beaumoni est chercheure en santé au travail, donc c'est la personne qu'il nous faut pour parler de cette crise sanitaire. Elle est directrice de recherche honoraire à l'INSERM. Alors l'INSERM, c'est l'Institut National de Santé et de Recherche Médicale. Et elle est aussi présidente de l'association Santé, Travail, Environnement, qu'on appelle aussi l'association Henri Pesera. C'est pour ça que je la connais, puisqu'on est dans la même association. Alors bonjour Annie.
Bonjour Philippe.
Alors aujourd'hui, on va parler de cette crise sanitaire et la première question, c'est pourquoi avoir voulu, avec l'association et d'autres organisations comme le syndicat de la médecine générale, faire une chronique intitulée « Une autre stratégie de lutte contre le Covid est possible ». Cette chronique est parue, entre autres, dans le journal Mediapart ces jours-ci. Alors pourquoi ?
Alors pourquoi ? Parce que... Avec le syndicat de la médecine générale et d'autres associations et syndicats, nous sommes très préoccupés de la stratégie qui a été choisie par le pouvoir par rapport à cette crise sanitaire, comme si ils avaient totalement fait l'impasse sur tout ce qu'on sait depuis un siècle dans la lutte contre les maladies infectieuses.
Oui, alors c'est ce qui m'a interpellé aussi, parce que j'ai repris mes vieux dossiers sur la grippe A et le SARS-CoV-1. On avait déjà écrit plein de choses à l'époque sur le comment faire. Donc, tu dis un siècle, moi je suis remonté seulement une quinzaine d'années. Donc là, on n'est pas dans la découverte et le tâtonnement comme on essaye de nous le faire croire en nous disant qu'on découvre et qu'on doit s'adapter. C'est pas du tout le sujet.
Non, c'est pas du tout. En fait, on sait ce qu'il faudrait faire, mais la volonté du pouvoir, ça a été de ne pas prendre en considération ni les inégalités, ni ils ont voulu essayer, mais là ils se sont complètement fourvoyés puisque ils voulaient préserver l'économie et en fait l'économie, on sait où on en est. Donc, ils ont perdu sur tous les tableaux, sur le tableau santé et sur le tableau de l'économie. Donc,
alors, première question plus précise, tu as commencé à l'aborder, la question des inégalités. Est-ce que le virus, finalement, en tout cas la maladie, le virus, lui, il sait pas ce que c'est que l'égalité, mais ni l'inégalité, mais est-ce que c'est une maladie inégalitaire par rapport aux couches sociales?
Alors, bien sûr, c'est une maladie, en fait, qui est atteint, c'est bien sûr d'abord les gens qui ont certaines fragilités, non pas du point de vue individuel, mais du point de vue collectif. C'est un virus qui est très contagieux, donc où se fait la contagion ? D'abord à domicile, là où il n'y a pas possibilité d'isoler les malades. Là où se fait la contamination également, c'est sur des lieux de travail où il y a une impossibilité d'être véritablement à distance les uns des autres, avec des lieux mal ventilés. Je pense à des supermarchés, je pense à des chantiers de nettoyage. Mais je pense aussi aux écoles, collèges, par exemple de la Seine-Saint-Denis. Un des exemples qu'on donne dans la chronique, c'est dans beaucoup d'écoles, collèges, lycées de la Seine-Saint-Denis, on a du papier toilette et du savon dans les toilettes que lundi, par exemple. Après, il n'y en a plus, c'est pas renouvelé parce qu'il n'y a pas les moyens, soi-disant. Et comment est-ce qu'on peut donner comme geste principal pour se protéger du virus le fait de se laver les mains, s'il n'y a pas de savon dans les toilettes. Donc, on a, comme ça, je donne cet exemple-là parce que il est révélateur de cette inégalité. L'inégalité, elle commence par les conditions de vie et de travail. Et plus on s'éloigne des lieux de pouvoir où ils ont tous les moyens, effectivement, pour se protéger, plus on va être dans des situations où la contamination va se répandre, et d'autant plus que les mêmes ont énormément de difficultés à avoir accès à des médecins, à des centres de santé, à ceux qui peuvent les aider aussi à gérer la situation une fois qu'ils sont atteints.
Oui, j'avais lu d'ailleurs que sur ce sujet, on parlait des premières victimes, les sans domicile fixe, les migrants, les mal logés, ceux qui sont dans la promiscuité, les précaires par rapport aussi à ce qu'on exige d'eux au travail. Donc c'est en fait la confirmation que cette maladie est un révélateur du désastre des inégalités sociales.
C'est un révélateur du désastre des inégalités sociales et des inégalités sociales de santé en particulier. Quand D'accord. on voit les conditions de travail, on a fait un peu la liste, par exemple, on écrivait toujours en Seine-Saint-Denis, comme dans la plupart des quartiers ouvriers ailleurs en France, des centaines de milliers de travailleurs parmi les plus essentiels mais les plus mal payés, agents de nettoyage, caissières, aides-soignantes, auxiliaires de vie, éboueurs, ouvriers non qualifiés du BTP, tous ceux qui travaillent en intérim, en sous-traitance, et sans parler de ceux qui sont soumis aux pratiques esclavagistes, des Uber, des Deliveroo et autres plateformes d'exploitation humaine à 2 euros par de l'heure. C'est un véritable scandale. Et bien sûr, ce sont tous ces travailleurs et tous les exclus du travail et de la vie qui sont les premiers concernés et qui sont décimés parce qu'ils sont en plus dans des conditions où le système immunitaire est évidemment beaucoup plus faible et donc les ravages du Covid sont beaucoup plus importants dans un département comme celui de la Seine-Saint-Denis auprès des populations les plus précarisées dans tous les sens du terme que, bien sûr, dans le 7e ou le 16e arrondissement de Paris.
D'accord. Alors, comme dans le Tarn-et-Garonne, on est dans un département qui est en dessous de la moyenne en matière de pouvoir d'achat, de logement, et avec un taux de chômage élevé, on peut penser que ça fait en quelque sorte caisse de résonance aussi. Il y a un autre sujet dans la chronique qui est abordé, c'est le fait de délaisser des soi-disant priorités, puisqu'en fait on s'aperçoit que c'est pas le cas par rapport à la lutte contre le cancer, par rapport aux gens qui étaient déjà malades et qui devaient déjà subir des traitements ou faire l'objet de dépistages précédemment, qui sont également, disons, les victimes par sélection finalement de cette crise sanitaire. Est-ce que tu peux confirmer ou est-ce que c'est simplement un peu ce qu'on dit d'une façon générale?
Ah non, là je peux complètement confirmer. Il y a eu, alors je vais prendre le cancer qui est quand même une des pathologies, non seulement par rapport à laquelle je travaille, puisque je travaille sur des enquêtes sur les cancers professionnels, mais c'est une épidémie dont le pouvoir ne parle jamais, dont les instances sanitaires, je dirais, ne se préoccupent pas. C'est le cancer et on est passé de 150 000 nouveaux cas dans les années 80 à 400 000 nouveaux cas par an et 150 000 décès. Ça veut dire quand même 400 000 nouveaux cas par an. C'est plus de 1200 cas par jour. Or, pendant les deux mois du premier confinement, tous les soins ont pratiquement été, excepté les hyper-urgents, ont été déprogrammés. Ça veut dire que des dizaines, des centaines de milliers de personnes atteintes du cancer ont perdu la possibilité d'être diagnostiquées dans des délais raisonnables à partir du moment où ils commençaient à être susceptible d'avoir un diagnostic parce que le cancer était là. Donc ça, c'est extrêmement grave. Les traitements ont été suspendus. Suspendre un traitement, ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser la possibilité à des tumeurs cancéreuses de proliférer, à des cellules cancéreuses de se répandre. Et bien sûr, toutes ces situations-là sont des situations que j'appelle, moi, de non-assistance délibérée à personne en danger. Et c'est extrêmement grave. Et sachant que les mêmes personnes sont aussi les plus susceptibles d'être malheureusement atteintes du Covid dans ses formes graves.
Oui, c'est la double peine en quelque sorte par rapport à ces inégalités sociales aussi. Alors, on m'a donné des exemples d'ailleurs dans la région de Télus par rapport à ce que tu décris. Donc on est bien dans un phénomène important et un phénomène général. Alors pour en venir aux solutions, là aujourd'hui on entend parler que du vaccin comme la solution unique. Alors moi j'ai en souvenir que l'industrie pharmaceutique se frotte les mains. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce qui semblerait, si on écoute la télé, être la seule solution, cette histoire de vaccin?
Alors moi, je suis très réservée sur le fait de faire dépendre la lutte contre une maladie infectieuse exclusivement d'un vaccin. On a un exemple historique qui est la tuberculose, pour lequel il y a eu un vaccin, le BCG, qui en fait n'était qu'un pis-aller puisqu'il ne couvrait que certaines formes de la tuberculose, et le vaccin n'a jamais permis d'éradiquer la tuberculose. Donc même à supposer qu'il soit efficace, qu'il n'ait pas d'effet secondaire, ce dont on n'est absolument pas sûr actuellement, puisqu'on n'a pas de recul du tout par rapport à ce vaccin, on est très très loin de ce qui serait nécessaire aujourd'hui et qui a été mis en place dans de très nombreuses épidémies depuis plus d'un siècle, depuis la fin du 19e siècle. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait déjà donner des moyens à tout l'ensemble du système de soins pour un dépistage systématique et la possibilité d'isoler les malades et les contacts dans des conditions humainement acceptables. Ce qui voudrait dire, d'une part, faire en sorte que le suivi médical soit possible avec des moyens renforcés en médecins, en infirmières, en aides-soignantes, en personnel de nettoyage, etc. La réquisition d'hôtels ou de logements permettant cet isolement des malades et des sujets contacts, mais dans des conditions humainement acceptables. Et ça, c'est très très important. Il faut un suivi pour mieux connaître les différentes manifestations de cette épidémie. On ne laisse pas les gens avec seulement du paracétamol chez eux à attendre de savoir comment ça se passe. On fait un suivi rapproché pour connaître les différentes manifestations, aider les patients qui en relèvent dans des conditions là aussi beaucoup plus cohérente et sécurisante par rapport à des manifestations qu'on connaît encore mal. Et tout ça doit être assorti d'une réflexion sur le système de soins aujourd'hui en France, qui ne doit pas rester dans cette situation non seulement de privatisation, mais de financiarisation. L'hôpital n'est pas une entreprise à but lucratif. L'hôpital public doit être un lieu qui réponde aux besoins des malades, aux besoins de la population, au plus près de ses besoins. Et on est là dans une situation où manifestement le gouvernement ne veut pas investir dans cette situation-là. Et tant qu'on sera dans une situation où la seule chose à laquelle pense le gouvernement Macron, c'est alléger les cotisations sociales des grandes entreprises au lieu de s'engager fermement dans le remboursement de la dette patronale à la sécurité sociale, une dette patronale contractée depuis des décennies, on arrivera absolument pas à avoir une stratégie cohérente par rapport à cette épidémie.
Donc, si je résume, entre autres choses, il vaut mieux confiner les cas positifs que les gens bien portants, peut-être inverser ce qu'on appelle le paradigme, et puis aussi regarder de plus près notre sécurité sociale qui est sabotée de toutes parts depuis des années et qui a bien du mal à jouer son rôle aujourd'hui. Pour les entreprises, il y aurait peut-être aussi des choses à faire, puisque là, on m'a signalé, y compris sur le secteur de Quélus, qu'on a incité des gens diagnostiqués positifs pour aller au boulot. Et ça me fait penser aussi, en tout cas pour les entreprises de taille moyenne, à la suppression des CHSCT voulus par Macron, qu'il faudrait remettre en place, sans doute, enfin une raison supplémentaire de les remettre en place.
Alors, c'est très important ce que tu viens de dire, c'est capital. C'est-à-dire que il y a quelque chose d'absolument inadmissible dans ce que j'appelle le double standard. D'un côté, le confinement fait que individuellement, chacun peut être sanctionné parce qu'il aurait un déplacement sans attestation ou je ne sais quoi. Et d'un autre côté, les entreprises peuvent obliger des travailleurs atteints à venir travailler. Je sais que des soignants ont été obligés d'aller travailler, y compris dans des EHPAD, y compris à l'hôpital, alors que la stratégie de lutte devrait être, chaque fois qu'il y a un cas, il doit pouvoir bénéficier d'un arrêt de travail 100 jours de carence, c'est-à-dire que dès le premier jour, il doit pouvoir s'arrêter, que les autres cas contacts dans l'entreprise soient également arrêtés, et sans chantage de la part de l'employeur pour le maintien de ces personnes au travail, et le rétablissement des CHSCT, il est évident que si les CHSCT avaient existé et que le droit de relais, le droit de retrait, le droit d'alerte avaient pu être mis en œuvre dès le début de cette épidémie, je pense qu'on aurait là aussi eu un levier de lutte très important contre le Covid sur les lieux de travail.
Oui, c'est une certitude. Alors, on n'a certainement pas tout dit dans cette chronique. Espérons qu'on a dit l'essentiel. On va être obligé de se quitter là. Merci, Annie, pour toutes tes explications. Et puis, comme l'a dit la chronique parue dans Mediapart, une autre stratégie de lutte est possible. Hein. Il y a des choses à faire, dans les entreprises pour les droits des travailleurs, des choses à faire dans notre système de santé et des choses à revoir pour une vraie place de notre sécurité sociale. Et l'expérience est là, on ne découvre pas en matière de politique de santé publique. De nombreuses choses ont été dites et écrites depuis très longtemps dans le domaine. Merci encore, Annie, et j'espère à bientôt.
Merci, Philippe, à bientôt.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier, à retrouver en podcast sur cfmradio.fr, public CFM Quélus.
Il est plus petit que le jardin de ma tante.
Oh, pas vrai.
Ah, bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour.